vous dis à demain. À demain.
Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Radio Classique 6h49, trois titres dans ce journal de l'économie. Les très timides avancées de la visite d'État de Xi Jinping en France. Une augmentation de capital de plus en plus probable pour sauver Alstom. Et puis dans le monde agricole, quelles sont les alternatives aux pesticides s'il y en a ? Difficile dialogue lors de la première journée de la visite de Xi Jinping en France hier. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont appelé la Chine à des règles équitables en matière de commerce. La présidente de la Commission européenne a même menacé de prendre des décisions fermes, dit-elle, pour protéger l'économie face à le flux de produits chinois. Mais pour Xi Jinping, il n'existe aucune surcapacité chinoise, aucune menace sur l'Europe. En clair, la Chine ne changera pas de stratégie et continuera à subventionner son industrie. La Chine joue clairement sur les divisions internes à l'Europe, Eric Kioch.
Si Xi Jinping balaie si facilement les critiques, c'est qu'il peut compter sur un allié de poids en Europe, l'Allemagne. Il y a à peine 3 semaines, Olaf Scholz, le chancelier allemand en déplacement en Chine, avait d'ailleurs réitéré son opposition à tout protectionnisme européen, explique la spécialiste de la Chine, Valérie Niquet.
L'Allemagne, au sein de l'Union européenne, est le premier partenaire économique de la Chine, le seul pays européen à ne pas être déficitaire dans ses échanges avec la Chine. Donc, remettre en question cette dépendance au marché chinois est très difficile.
Pékin cible également d'autres soutiens parmi les 27. Et c'est tout le sens du déplacement de Xi Jinping en Hongrie, prévu en fin de semaine, poursuit l'autrice de la Chine en sans question, Valérie Niquet.
Y compris au sein de l'Union européenne avec la Hongrie, il y a des États qui sont beaucoup plus proches de Pékin et qui peuvent éventuellement bloquer certaines mesures qui ne seraient pas favorable à la République populaire de Chine. La Chine fait également miroiter les avantages puisqu'il est question d'investir encore plus dans le secteur automobile en Hongrie.
Qu'importe les déclarations de Xi Jinping, la Chine doit faire face à une consommation en berne et à une surproduction notamment de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes ou encore de voitures électriques, des produits pour lesquels la Chine doit conserver des débouchés en Europe, son principal partenaire commercial, et ce au moment même où les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'industrie chinoise.
Éric Kioch, on attendait un décollage à 4h du matin, heure de Paris cette nuit. On va attendre encore un peu pour voir la fusée Atlas 4 envoyer la capsule Starliner de Boeing dans l'espace. Deux mauvaises nouvelles en quelques heures pour Boeing, contre qui la FAA, l'autorité américaine de régulation du transport aérien, a ouvert une enquête contre le 787 Dreamliner pour de possibles falsifications de documents. Le Dreamliner et le Starliner ont donc quelques soucis encore. Boeing a reculé de 0,80% en bourse hier. Le Dow Jones a gagné 1,5%, le Nasdaq progressait d'1,19%, le CAC 40 a gagné 1,5% à 7 996 points, le Nikkei progresse en ce moment d'1,38%, l'euro vaut 1,0766 et le baril de pétrole, le Brent, est à 83$. Les marchés qui ont encore en mémoire une séance noire pour Alstom, c'était début octobre dernier, moins 38% en un jour. Le groupe ne parvient pas depuis à faire remonter la pente à son cours de bourse. Éric Mauban, une option de secours commence à émerger, celle de l'augmentation de capital.
Oui, il s'agit d'alléger le fardeau de la dette de 2 milliards d'euros. Le deuxième constructeur ferroviaire du monde a beau avoir un carnet de commandes bien garni de 90 milliards d'euros. Eh bien, il lui faut renflouer cette trésorerie pour honorer ses engagements. Le montant de l'augmentation de capital prévue pour cet automne pourrait se situer entre 500 millions et 1 milliard d'euros. En parallèle, Alstom poursuit son programme de cession déjà engagé. Un conseil d'administration prévu aujourd'hui fera un état des lieux afin de mieux identifier les leviers financiers à actionner. Parmi eux pourrait figurer la suppression de 1500 postes d'administratifs ou de commerciaux dans le monde, mais pas d'ingénieurs.
Merci Éric Mauban. C'est un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur dans toute la France. En Corse, une cinquantaine de médecins libéraux ont annoncé hier leur déconventionnement. Ils ont rompu leur contrat avec la Sécu. Ils demandent une majoration des tarifs alors que les négociations avec l'assurance maladie vont reprendre la semaine prochaine. Décision symbolique pour les médecins et aussi moyen de pression, Rémi Pfister.
En clair, ces médecins facturent librement leurs consultations, mais elles ne sont plus remboursées par la Sécu. Sortir du système, seule manière de soigner mieux les patients, explique le docteur Cyril Brunel, porte-parole des médecins libéraux de Corse.
On sort aussi des contraintes qu'impose cette convention. Les tarifs sont tellement bas qu'on arrive à une sorte d'abattage, on n'a plus le temps, c'est-à-dire avoir les gens plus vite en essayant de réduire toutes nos prescriptions. Beaucoup de médecins ne se reconnaissent plus dans ce système.
En Corse, cette décision découle surtout de l'absence de reconnaissance des particularités de l'île par l'assurance maladie.
les coûts de matériel sont plus importants que sur le continent car il faut les faire venir. Vous allez payer 5 fois plus cher l'azote liquide. Il est à 500 euros sur le continent. Le dermatologue ici doit le payer 2500 euros. C'est difficile de ne pas traduire ça dans les tarifs.
À cela s'ajoute une population vieillissante, souvent isolée dans des villages de montagne. Avec le tarif sécu, les visites à domicile deviennent impossibles pour le généraliste Stéphane Tafane.
On a des infrastructures routières qui font qu'on peut se retrouver assez facilement à 3h30, 4h pour faire un déplacement avec une indemnité kilométrique qui n'a pas été réévaluée depuis 1995. C'est-à-dire quand vous payez l'essence, vous vous rendez compte que finalement vous perdez de l'argent au lieu d'en gagner.
Ces médecins demandent des mesures spécifiques sur le modèle des DOM-TOM avec une majoration des actes médicaux. Sans réponse d'ici septembre, leur déconventionnement deviendra irrévocable.
Rémi Pfister, spécialiste santé de Radio Classique. Comment réduire notre dépendance aux pesticides? Le gouvernement a présenté hier la nouvelle version du plan Ecophyto, suspendu pendant le mouvement des agriculteurs cet hiver. Alors il veut toujours réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030, même si l'indicateur a changé et est plus indulgent. Ce plan insiste surtout sur la recherche de solutions de remplacement. Le gouvernement va consacrer 250 millions d'euros à la recherche d'alternatives. Quelles sont-elles, Zoé Pallier?
Des colonies de pucerons ravagent chaque année des champs de betteraves, mais pour les éliminer, les agriculteurs doivent renoncer aux néonicotinoïdes. L'entreprise Agriodor teste depuis 3 ans une alternative. Alain Thibault, son directeur général.
On met des petits granulés qui font à peu près 3 mm dans le champ. Le granulé va diffuser des odeurs que l'homme ne peut pas sentir, mais le puceron, lui, va sentir et ce sont des odeurs répulsives. Donc on va éviter que le puceron s'installe sur la betterave.
Mais avant d'être commercialisé, un produit comme celui-ci dit de biocontrôle doit être homologué et cela peut prendre 10 ans. Le gouvernement veut donc accélérer les procédures. Des laboratoires étudient aussi des solutions techniques comme des robots qui aident au désherbage, mais aussi agronomiques. Corentin Barbu est chercheur à l'INRAE, spécialiste des pesticides.
Il y a possibilité de baisser de 30% l'utilisation de produits phytosanitaires sans perte de rendement ou en tout cas de marge pour les agriculteurs. Quelque chose qui a marché dernièrement, c'est les mélanges de variétés de blé. Ça augmente un peu la résistance à des maladies, mais surtout ça permet de lisser le rendement.
Mais pour se passer totalement de pesticides, cela ne suffira pas, précise ce chercheur. Il faudrait pour cela revoir notre alimentation en consommant par exemple moins de viande et plus de légumineuses.
Zoé Pallier, c'était hier soir la cérémonie des Molières aux Folies Bergères. Le théâtre qui séduit de plus en plus d'ailleurs, près de 8 millions d'entrées en 2023 pour les spectacles privés, 233 millions d'euros de billetterie. C'est mieux qu'avant le Covid, c'est même un record, même si ce n'est pas forcément un nouveau public qui vient découvrir les pièces. Anne-Claire Gourbier, secrétaire générale de l'Association du théâtre privé.
Pour les spectateurs qui connaissent le théâtre et qui ont l'habitude d'y aller, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, ils sont de plus en plus assidus. Ce sont eux qui dopent la fréquentation. Ce qui est très important pour les spectateurs, c'est le fait d'aller dans un lieu, de vivre une expérience conviviale, divertissante également, et que l'on partage avec des proches. C'est cette dimension expérientielle qui permet au théâtre de se distinguer par rapport à d'autres pratiques, plus facilement concurrencées par les nouvelles pratiques numériques, par exemple.
On reste dans le domaine culturel avec la disparition de Bernard Pivot. On vous en parle depuis ce matin. On va continuer d'en parler sur Radio Classique jusqu'à la fin de cette matinale. C'était aussi un grand promoteur de la littérature d'un point de vue économique. C'est ce que note Albert Dichy, conseiller littéraire à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine.
Chacune de ces émissions regroupées entre 3 à 5 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs. Très vite d'ailleurs, les libraires ont compris qu'il fallait qu'ils soient pourvus de tous les livres des personnes invitées, puisque les librairies étaient dévalisées le lendemain de chaque émission. Puis il y avait des émissions qui étaient consacrées à un seul auteur, comme Marguerite Duras, et nous le voyons nous-mêmes dans les archives de Marguerite Duras. Toutes les lettres reçues par elle au lendemain de son émission, il y a eu des projets qui sont nés à ce moment-là, des invitations, c'était des émissions qui créaient un événement.
Un mot pour vous recommander le replay de la chronique de Natacha Valla. C'était ce matin à 6h20. Elle nous a parlé de l'hyperinflation en Allemagne dans les années 20. Une page d'histoire qui est encore aujourd'hui ancrée dans les têtes et la politique allemande. À retrouver un podcast, ça s'appelle... Les...